Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Feel Groove. Alors cette saison va être un petit peu différente de la première, dans le sens où, vu que j'avais envie d'un petit peu plus de réflexivité, de dialogue et de partage, je vais inviter par épisode un amateur de philo. Le principe en fait sera le même, c'est-à-dire que mon invité nous expliquera un événement qui lui est arrivé, qui l'a potentiellement perturbé, choqué, et on essaiera de l'analyser ensemble sous l'angle de la philo. Alors voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Philo Groove. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Fabio. Bonjour Fabio.
Bonjour.
Fabio, tu es invité aujourd'hui pour qu'on parle du regard. Brièvement, qu'est-ce qui te parle dans ce thème? Pourquoi est-ce que tu as accepté mon invitation?
Simplement parce que le regard, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Je suis quelqu'un qui aime dessiner. Étrangement, c'est toujours la première chose que j'ai dessinée. Donc peut-être parce que d'une part, c'est la partie centrale du visage, mais peut-être parce que aussi c'est l'endroit où se concentre une partie des émotions.
Mmh. C'est vrai qu'il y a une complexité dans le regard qui laisse pas indifférente, quoi, en tout cas. Et c'est vrai que tu me disais que tu avais une autre chose qui te perturbait, enfin en tout cas qui t'impressionnait, c'était la ressemblance entre l'iris humaine et certaines nébuleuses. Qu'est-ce que ça évoque chez toi?
C'est peut-être pas très scientifique, mais qu'il y a des liens des fois entre des choses macro et des choses micro, comme que certaines voies lactées vont ressembler, ou que même certaines nébuleuses, pardon, vont ressembler à des iris humaines, ou que même on va retrouver, par exemple, les dendrites, neurones du cerveau vont ressembler à des racines ou à des branches d'arbres. Donc c'est quelque chose que je trouve assez intriguant, qu'il y ait des patterns comme ça, similaires, qui traversent toute la création.
Pour nos auditeurs, une nébuleuse, c'est un corps céleste qui est constitué de gaz et de poussière.
Ouais, exactement. C'est quelque chose que je trouve assez intriguant, qu'il y ait des patterns récessifs dans la création, comme s'il y avait un peu des règles immuables à n'importe quel niveau.
Est-ce que tu crois qu'il y a un truc de l'ordre du créationnisme, comme, une énergie, une force qui aurait créé justement l'univers avec des mêmes schémas et des mêmes structures qui se retrouvent un peu partout?
Peut-être, mais en tout cas, si tel est le cas, il y a bien des règles. Donc si la ressemblance est fondée, pourrait être fondée scientifiquement, alors oui, il y a bien quelque chose, il y a bien des règles qui s'imposent à nous et à la création de manière générale. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être, il y a peut-être un côté un peu rassurant.
J'aimerais traiter du lien entre le regard et l'identité. Et donc, pour ça, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que le regard de tes parents pour toi, le petit Fabio, c'est quelque chose dont tu te souviens bien? Comment est-ce que tu as été regardé petit et est-ce que ça a eu un impact sur la personne que tu es aujourd'hui?
Tout à fait. C'est une question assez compliquée parce qu'il y a à la fois le regard des parents, le regard de nos grands-parents aussi qui peuvent aussi finalement être très présents dans nos vies en tant qu'enfants.
Bien sûr.
Je pense avoir eu des parents exigeants et surtout les parents transfèrent beaucoup d'attentes sur leurs enfants. Et des fois, sans le vouloir, je pense qu'ils blessent, ils blessent l'ego de l'enfant. Et donc le regard d'un parent déçu je m'avance peut-être en disant ça pour mes parents, mais le regard en tout cas d'un parent déçu parce que tu n'excelles pas à l'école, c'est quelque chose que tu portes. Ne se sentir jamais soutenu, peu importe les résultats, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Oui, je pense que ça m'a influencé dans le sens où peut-être que le fait que je sois souvent insatisfait de moi-même, peut-être que c'est une ancienne blessure, peut-être, je dis peut-être, mais à la fois c'est quelque chose où j'en suis assez reconnaissant parce que ne jamais être satisfait, c'est un moteur en fait aussi.
En fait, je te posais la question parce que le bébé, en fait, il élabore sa première représentation de lui-même à partir de ce qu'il découvre dans le regard de... Souvent, c'est sa maman, mais c'est l'interlocuteur privilégié, on va dire. Mm-hmm. Ça peut être tes grands-parents, voilà. Et en fait, le regard de l'autre vient, si tu veux, traduire et restituer son état émotionnel. C'est vraiment le socle, finalement, des expériences de ton regard que tu porteras après toi-même sur les choses. Et le problème vient souvent lorsque la maman ou le tuteur, peu importe, est aveuglé par ses propres états émotionnels. Mm-hmm. Donc, qu'il ou elle lui restitue, en fait, une identité qui n'est pas la sienne.
Mm-hmm.
Fabio, par rapport à la symbolique ou la fonction du regard, en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de significations qu'on lui attribue.
Mm-hmm.
À travers les yeux, on observe les émotions et les sentiments. Mm-hmm. C'est comme si on se mettait un peu à nu face à l'autre. Et quand l'estime de soi, par exemple, est un peu fragile, on ne va pas oser regarder la personne droit dans les yeux ou être fuyant, avoir un regard fuyant. Est-ce que pour toi, tu te souviens d'un moment donné où, par exemple, tu avais juste envie de de fermer les yeux ou de sortir du champ de vision de l'autre personne? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça aurait empêché?
Alors, pour répondre à ta question, moi, je pense avoir le regard fuyant à différents moments. Donc, toutes les situations qui me poussent à avoir ce regard fuyant, je les comprends pas toujours. Mais je sais qu'à certains moments, c'est vraiment pour m'isoler d'une certaine manière. Peut-être parce que je n'ai pas envie de communiquer et peut-être parce que je me sens pas assez à l'aise. Et donc, c'est vraiment plus pour moi un lien que je veux avoir quand je me sens peut-être en confiance avec les gens. C'est vraiment cette situation-là. Mais être gêné, par exemple, au point de vouloir m'enfuir pour ne pas subir le regard des gens, je n'ai pas de souvenir, mais c'est peut-être parce que mon cerveau a fait des tri sélectifs.
Mais c'est vrai que, aussi, le regard, déjà, en soi, c'est... Pour les gens qui sont sensibles et qui ont vite des surcharges sensorielles, on va dire, c'est vrai que, quand tu dis, il y a énormément de détails, que ce soit le reflet de certaines lumières, la dilatation des pupilles, le simple clignement de l'œil... Puis à ça, évidemment, on vient ajouter tout le reste du visage, mais c'est beaucoup d'informations à traiter en même temps, finalement. Justement, parfois, afin d'éviter cette situation-là de surcharge, justement, il y a certaines personnes qui se détournent, tout simplement, pour éviter ce trop-plein de stimulation, peut-être. Après, au-delà de ça, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a aussi une dimension de conditionnement éducationnel où, finalement, tes parents qui t'ont par exemple dit, je ne parle pas de tes parents, mais en général, qui te disent « tu ne me regardes pas comme ça, baisse les yeux », etc. Il y a une forme de respect qui nous a été aussi inculquée. À quel point est-ce que c'est sociétal aussi, tu vois?
Oui, je pense que le regard, la manière dont on pose le regard sur les choses qui nous entourent sont influencées par l'éducation et la culture. Mais personnellement, j'ai tendance à penser que la manière dont on regarde les choses est intimement liée à notre caractère, plus qu'à notre culture. Alors oui, peut-être, on peut décortiquer et voir peut-être que j'ai tort, mais j'ai tendance vraiment à croire que c'est sûr, les gens qui sont timides, qui ont moins confiance en eux, vont avoir un regard plus fuyant, plus regarder vers le bas, vers le sol, mais c'est comme je disais tout à l'heure, pour s'isoler, pour se renfermer sur eux-mêmes. Tandis que les gens qui sont confiants, ils vont regarder le monde la tête haute. Et donc, moi, j'ai plus l'impression qu'on est plus au niveau du caractère. Là, je suis sûr que c'est quelque chose qui serait peut-être transversal à l'humain. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait être dans n'importe quel type de société. Peut-être que les gens plus timides, ils vont plus regarder justement autre part que devant eux. Peut-être que aussi les gens timides ou plus créatifs regardent aussi dans le ciel, tu vois. Tête en l'air.
C'est vrai.
Et les gens qui sont bien sur les pieds sur terre, ils regardent droit devant eux, tu vois. Et les autres, ils sont autre part, mais pas en face d'eux, pas en face.
Et on dit souvent que le regard, il est sauveur, il est assassin à la fois, dans le sens où on dit il a les yeux revolver, il nous meurtrit. Mais finalement, il peut aussi nous sauver, parce qu'on dit souvent qu'il est difficile de tuer quelqu'un en le regardant droit dans les yeux. C'est plus facile de le tuer quand il est de dos, en gros. Et finalement, le visage, il est un peu nu, sans appel, sans défense. Il est, comme on dit parfois, on appelle muet à respecter, à pouvoir répondre, à ne pas faire violence, à ne pas tuer, justement. Est-ce que pour toi, le regard t'a déjà sauvé d'une situation compliquée ou justement a pu t'anéantir?
Mais je pense que dans les situations dans lesquelles un regard a pu me troubler, c'est surtout quand on arrive à lire de la déception... de la tristesse aussi, parce que des fois on peut causer de la tristesse aux gens, et donc des fois on peut voir, mais c'est pas que le regard, c'est tout le visage qui va se décomposer, et ça c'est vrai que ça peut faire du mal. Et finalement c'est pas un miroir de, en fait, oui, l'autre, ce qui va afficher sur son visage à travers son regard aussi, ce sera la conséquence de nos actes. Et donc ça nous renvoie à nous-mêmes directement, bien entendu, mais c'est pas propre au regard. Des regards sauveurs, bien entendu, ça, il y en a eu, et surtout les gens qui ont, je pense, des fois des regards avec beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion pour ce qu'on ressent, ceux de soutien. Et des fois j'ai ça dans le sens où j'avais ça en cours, quand tu vois un ami qui stresse, même toi tu le regardes de manière souriante, tu hoches de la tête pour lui montrer justement qu'il est sur le droit chemin et qu'il fait ça bien. Et voilà, ça, c'est des comportements aussi très empathiques envers les gens.
Je voudrais faire le parallèle entre les regards et la conscience, la mienne et celle de l'autre. Et par exemple, Sartre, il disait, quand vous croisez, vous êtes l'un pour l'autre un élément de vos mondes respectifs. Et donc, finalement, il n'y a plus seulement ta propre conscience, ta souveraineté qui règne, mais il y a vraiment, il se perd une sorte de décentrage de mon monde, là où, par exemple, je deviens un élément du monde dont la conscience de l'autre est au centre. C'est ça, le décentrage. Donc, finalement... C'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est une forme de kidnapping, le regard de l'autre, il m'extrade de mon monde pour me mettre finalement dans son monde. C'est un élément qui perturbe énormément parce qu'on n'a pas de maîtrise là-dessus. Toi, tu t'es déjà battu pour apparaître d'une certaine manière aux yeux de quelqu'un, d'en avoir une maîtrise. Et c'est quoi le plus dérangeant en fait de ne pas l'avoir?
Ben, je pense que le problème, de manière générale, c'est que le regard de l'autre, d'une part, on peut idéaliser les choses qu'on voit, on peut transférer, et donc on a toujours une vision galvaudée de finalement la personne qu'on a en face de nous, déjà parce qu'on, des fois, on la connaît pas assez, et puis est-ce que vraiment c'est possible de dire qu'on connaît vraiment quelqu'un à 100%?
Même soi-même,
Oui,
au final.
ouais. Déjà on a du mal à connaître soi-même, alors connaître l'autre, tu vois, c'est
Bonne chance.
bonne chance. Mais c'est sûr que peut-être les parties où le regard de l'autre peut être problématique dans cette sorte de kidnapping, je trouve, c'est quand voilà, tu as une vision galvaudée mais négative. Et je pense que moi, c'est souvent aller quand. Je pense que c'est la juste valeur. Quand on t'apprécie pas ta juste valeur, je pense que ça,
C'est ça.
c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Être abaissé à un truc que tu n'es pas, ça c'est insultant, je trouve. L'autre peut me blesser, ou ce sort de kidnapping peut être pour moi mal perçu quand on ne me considère pas à ma juste valeur. Et là où je vais vouloir leur démontrer l'inverse. Et donc
Oui.
là, je vais me battre. Mais je ne suis pas quelqu'un qui me bat de front. Je vais pas aller obligatoirement leur montrer que.
Même si l'autre personne apprend finalement à me connaître, ce sera toujours trop, trop étriqué par rapport à la personne que je suis, par rapport à l'entièreté de mon essence. Et il y a peut-être un côté aussi de, comme un processus de réification où on est un peu chosifié, dans le sens où la conscience de l'autre peut disposer de moi.
Oui, on n'a pas la maîtrise de comment les gens nous voient. Et si les gens nous voient négativement ou nous voient d'une certaine manière, c'est sûrement de notre faute, entre guillemets. Le mot faute, c'est peut-être pas le bon mot, mais je pense qu'on renvoie des choses. Des fois, on les renvoie mal. C'est pour ça que tout à l'heure, je te dis, voilà, moi, c'est quelque chose de dérangeant d'être pas vu à sa juste valeur. Mais je pense qu'il est toujours possible de le montrer. Et à nous aussi de pouvoir ne pas mettre des gens dans des cases. Si on se rend compte que les gens peuvent nous juger facilement, à nous aussi de pouvoir permettre aux gens de sortir vite d'une case et la remettre dans une autre. C'est humain de juger quelqu'un sur le physique, dire « Ah ouais, lui c'est un con, je le sais. » Alors comment tu le sais? Je le vois, tu vois. Et finalement, c'est faux. Mais il faut alors être. Si on sait qu'on est comme ça, il faut aussi permettre aux gens de pouvoir changer d'avis et peut-être même pas justement de ne pas juger sur les a priori, sur le simple ressemblant, enfin sur la simple apparence de la personne ou de ce qui renvoie à certains moments.
Oui, mais tu trouves pas qu'il y a aussi un autre élément qui est que finalement, sous un certain aspect, l'autre me connaît mieux que ce que je me connais. Enfin, même quand tu te vois en vidéo, tu as ce sentiment un peu étrange où tu te dis, ah, mais c'est moi. Ton enveloppe extérieure, finalement, enfin, l'autre dispose finalement d'un point de vue de nous-mêmes que nous, on n'a même pas soi-même, quoi.
Ouais, ça c'est un truc, je me suis déjà posé plusieurs fois la question de. J'aurais aimé pouvoir me voir de manière extérieure parce que ça te permet aussi de comprendre comment tu te places dans l'espace. Mais c'est peut-être le défaut de ne pas évoluer aussi devant une glace, dans le sens où tu as des sports. Je pense qu'en boxe, en danse, tu évolues des fois devant des glaces, justement pour te positionner dans l'espace, pour voir si tu fais bien les mouvements. Mais ces gens-là, tu comprends, même en les voyant, qu'ils ont une bonne connaissance de eux dans l'espace. Donc comment il bouge. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Il faut pas se regarder dans le miroir, c'est pas toujours quelque chose d'égocentrique. Ça peut juste être apprendre à comment toi tu es dans l'espace. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'une posture, ça renvoie aussi beaucoup de choses. Une manière,
Oui.
une simple posture ou se déplacer.
Oui, c'est clair. En continuité par rapport à ça, en quoi pour toi le regard c'est plus que juste un œil?
Mais comme je te disais, parce qu'on avait eu l'occasion de s'entredire un tout petit peu il y a quelques jours
Oui.
là-dessus. Pour moi, je pense que c'est plus qu'un œil parce que ça s'inscrit aussi dans un contexte biologique. Je t'avais expliqué que en physiologie animale, les animaux qu'on va dire proies ont des yeux sur les côtés pour avoir un champ de vision assez large pour finalement capter le prédateur. Et le prédateur, lui, il va avoir les yeux devant, vraiment devant le visage, pour pouvoir avoir des facilités à chasser. Puis aussi la forme de l'iris. En fait, concrètement, les iris verticales, ce sont les prédateurs. Les iris horizontales, ce sont les proies. Et là aussi, c'est pour faciliter la chasse ou la fuite dans certains cas. Et donc, on se rend compte que c'est plus qu'un œil. C'est même une manière d'être. Le type de regard que tu as, c'est une manière d'être dans le monde. Donc, le fait que tu aies différents types d'animaux qui ont différents types de regards, c'est plus que juste voir. Voilà, ça t'inscrit dans quelque chose. Au-delà de ça, comme je te dis, pour les humains en tout cas, Je trouve ça dingue que le regard, oui, c'est voir. Mm-hmm. Et donc, c'est pouvoir admirer ce qu'il y a autour de nous. Mais c'est aussi un moyen de s'exprimer. Et c'est aussi un moyen de différencier un homme et une femme. On pourrait faire une liste là et mettre 10 regards sur la table. Je suis sûr que peut-être à 90%, tu ne te trompes pas. Parce que le regard de l'homme et le regard de la femme, ce sont des courbes différentes, presque sûr et certain. Au moins les sourcils, tu vois. Mais donc, c'est parti du regard. Ce n'est pas un œil. Il y a les cils, il y a le... Et donc ça, c'est dingue aussi qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que juste voir. Ça s'inscrit dans un truc beaucoup plus large que simplement voir.
Mais le philosophe Husserl, il disait que les regards, en fait, qui se croisent, c'est vraiment comme une communauté originelle des consciences. Et finalement, que le regard de l'autre, il vient rompre l'intimité que j'ai avec moi-même. Et donc finalement, le regard, c'est ce par quoi, finalement, une intériorité s'ouvre sur une extériorité qui, elle, va de nouveau s'ouvrir sur une intériorité de l'interlocuteur qui est en face de moi. Et donc, est-ce qu'elle rend visible l'invisible, d'une certaine manière? C'est comme si on mettait en contact deux intériorités qui brisaient l'obstacle de cette extériorité.
Oui, je sais ce que tu veux dire.
Tu vois? À quel point est-ce que là-dedans aussi, il y a un élément qui est gênant, peut-être? Ça te donne vraiment direct un accès à quelque chose que tu n'as peut-être pas forcément envie de montrer.
Oui.
Ma prochaine question, du coup, c'était, selon toi, quel est le rôle du regard, du coup, des autres dans ton rapport à toi-même? Parce que Sartre, par exemple, il disait que pour avoir une image de moi, il faut passer par l'autre. Par exemple, la honte, il disait que tu ne peux avoir la honte que par rapport à quelqu'un. Et en fait, c'est une épreuve de conscience qui se fait via autrui, qui viendrait renvoyer, finalement, à la peur de sa propre lucidité. Il y a plusieurs exemples comme ça, je t'en parlais là tout à l'heure. Quand on se sent... aimable via un regard amoureux, on se sent coupable si le regard de l'autre il est suspicieux. À quel point est-ce que ça nous renvoie dans cette case, quoi? Et peut-être aussi comment se détacher de ça.
Je pense que le regard de l'autre il a toujours un impact, hein. J'essaie de m'en détacher quand même un maximum, parce que je pense que les autres ils peuvent être généralement qu'un frein à ce qu'on veut être ou ce qu'on veut faire. Et donc d'abord se sonder soi-même et faire ce qu'on veut. Mais malgré tout il intervient dans les choses, le succès, être apprécié des gens, de son entourage, mais voilà, c'est toujours en rapport avec l'autre, donc il intervient à certains moments, mais il faut savoir mettre les priorités. Et je pense que il y a des gens que l'on estime, que l'on aime, et là leur regard, la valeur qu'on donne à leur regard est haute.
Ouais, mais c'était assez intéressant d'ailleurs, parce que j'avais lu à ce sujet que tout était une histoire de concentration. Donc en fait, il faudrait se concentrer sur ce qu'on dit plutôt que sur son interlocuteur. Tu vois? Et donc c'est vrai que ça, c'est une solution parmi d'autres. Et aussi par rapport à ce qu'on disait là tout à l'heure, à mon avis, juste axer son regard sur l'encouragement, plutôt que sur la désapprobation peut-être. Et est-ce qu'on n'a peut-être pas, notre instinct de survie nous fait pas axer justement notre regard sur la malveillance pour justement pouvoir mieux l'éviter, par exemple?
Ah ouais, mais ça, c'est quelque chose d'incroyable quand tu regardes autour de toi. Alors, il y a des gens, la plupart des gens ne disent soit rien, mais par exemple, le soutien dans des aventures personnelles, c'est pas toujours facile de le trouver même dans son entourage. Ça, c'est quelque chose où finalement, tu te dis que le regard de l'autre, il doit pas être là, parce que finalement, si t'attends que les autres te soutiennent pour que ça fonctionne, t'es pas sorti de l'auberge. Et c'est pour ça qu'avec le temps, en grandissant, moi je me dis fais les choses, et puis si ça fonctionne, si des bonnes choses se produisent et que les gens ont envie de montrer leur soutien, ils le feront. Mais et déjà, si tu bases tout ce que tu produis sur le regard de l'autre, tu ne fais rien de personnel, tu fais quelque chose que pour combler la masse. Et je pense à ça apparemment en art très fort, hein. Donc que ce soit en musique, dans n'importe quel domaine de l'art, tu peux soit faire de l'art commercial entre guillemets et plaire à la masse, mais est-ce que là tu fais vraiment quelque chose de personnel? Interrogation, hein, j'ai pas la réponse. Mais ou alors tu peux faire quelque chose de très personnel et qui n'est pas obligatoirement vendeur a priori, mais c'est finalement la marque des grands, c'est je fais ce que je veux, et 10 ans, 15 ans plus tard, peut-être le temps d'une vie, le temps qu'ils décèdent, et puis ça, après ça devient bien, je sais pas, le regard des gens a peut-être évolué, mais je préfère ça, imposer ta vision, entre guillemets. T'imposes ta vision aux autres, dans ton cas tu la montres et elle respecte tes convictions, que finalement faire quelque chose d'impersonnel et de plaire au regard de la masse, qui finalement elle t'appréciera et après te lâchera tout aussi vite, quoi.
Oui, mais tu crois pas que c'est quelque chose qui fluctue, dans le sens où justement les artistes, tu vois souvent que dans leur communauté, ce côté d'abord d'approbation par les pairs, et ensuite montrer son unicité via une, je dirais pas une rébellion, mais justement en s'en écartant. Donc, est-ce que tu ne crois pas qu'il faut une bonne dose d'abord, je dirais un coussin d'approbation pour ensuite pouvoir s'en extraire d'autant plus?
Je ne sais pas si tu as besoin de l'approbation. Je pense que c'est comme, on va prendre la bête théorie, une des bêtes théories freudiennes, c'est que tu vis au départ, tu produis à travers tes pères, et tes pères, même tes pères avec un P-E-R-E-S, hein, parce que c'est eux qui ont, c'est le socle commun des grands artistes. Et puis après, tu dois les tuer aussi, parce que sinon après, tu fais que tu reproduis ce qu'ils font. Donc, pour moi, c'est là-dedans tout l'enjeu, mais tu n'as pas besoin du regard de l'autre là-dedans. Par exemple, je pourrais être influencé par Da Vinci, Botticelli ou d'autres, mais finalement, reproduire que ce qu'ils font, ben, il n'y a rien de personnel. Donc Picasso, on regarde ses tableaux apparemment de l'adolescence ou début de sa vingtaine, il fait du classique, rien de... Il est très talentueux, hein, ça c'est sûr, hein, pour son âge, très talentueux, mais après, il casse les codes. C'est essentiel d'avoir les bases pour casser les codes, il faut les connaître. Et finalement, c'est tout en dehors du regard de l'autre, parce qu'il y a une partie des gens qui n'ont peut-être pas compris ce qu'il faisait. Et c'est ça, quand tu fais, entre guillemets, de l'avant-garde, c'est tour des chemins inconnus. Mais tu dois pas, alors, justement, faire de l'avant-garde qui va te dire, fais quelque chose que personne ne comprend. Mais personne ne fait ça.
Non, c'est clair. Et du coup, par rapport au lien entre les émotions et le regard, est-ce que pour toi, il y a des choses qui ne peuvent s'exprimer que par le regard? Et attention, ça c'est une question piège, du coup. Des choses qui sont indicibles. Mais du coup, par définition, si c'est indicible, comment est-ce que tu vas répondre à ma question? Bonne chance.
Tu sais que c'est une question quand même difficile, mais je pense que tout, que ce soit le regard ou langage non verbal, des fois permet de comprendre des choses que les gens n'osent pas dire. Et finalement, c'est une manière de communiquer, pas toujours évidente, des fois aussi assez, qui peut être aussi assez brutale, parce qu'un regard de dégoût ou un rejet physique peut être des fois plus dur à encaisser qu'un rejet verbal, que des mots méchants. Donc c'est sûr qu'il y a une communication qui peut se faire à ce niveau-là, même la personne ne se rend pas compte parce que tout est tellement instinctif que toi tu perçois des choses que la personne ne perçoit, enfin elle ne sait pas qu'elle t'a indiqué ces éléments-là, et donc ça peut être vraiment aussi assez, je trouve, compliqué à gérer.
Oui, et c'est vrai que en termes d'émotion, t'en parlais là tout à l'heure, l'empathie par exemple, ça passe énormément par le regard. En fait, en gros, l'empathie c'est quoi? C'est vraiment la reconnaissance des émotions dans le visage de l'autre, et en fait, pour ça, il y a vraiment une zone particulière dans le visage qui entoure, si tu veux, les yeux. Ça vient prendre au nez et le début de la bouche, donc comme une sorte de T, en fait, si tu veux. Et en fait, quand on regarde, quand on fait des tests des mouvements oculaires des hommes et des femmes, on voit que les femmes arrivent beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus juste à décrire l'émotion. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que est-ce que les femmes sont plus rapides et plus justes que les hommes? C'est parce qu'elles vont directement, leur mouvement oculaire va directement regarder dans cette zone où se logent justement les émotions. Là où en fait les hommes ont un mouvement oculaire beaucoup plus disparate dans l'entièreté du visage.
Ok, c'est assez intéressant.
Oui, donc là je t'annonce potentiellement que les femmes sont plus empathiques.
Oui, mais j'avais déjà entendu ça. Mais je pense que ça c'est aussi typiquement aussi les constructions, la construction même des humains depuis la nuit des temps, où quand les hommes ont commencé à sédentariser, t'as eu sûrement des rôles attribués des fois. Et que moi c'est comme ça que j'ai eu une mère très, très proche de moi, de ma sœur, très fort à l'écoute plus que le père, mais c'est même inscrit. Je vais dire peut-être génétiquement, c'est peut-être un peu too much de dire ça, mais c'est peut-être lié vraiment apparemment à un rôle de mère. Ou...
Oui, ça je ne sais pas si c'est inné ou si c'est quelque chose de sociétal, c'est assez surprenant. Fabio, je vois que le temps avance. Comme petit mot de la fin, est-ce que toi t'aurais une émotion, enfin, quelle est la plus belle émotion que tu as vue dans le regard de quelqu'un? Ça peut être à travers une œuvre, ça peut être en live.
Quand j'étais petit, à l'école primaire, un homme était venu présenter l'expérience des camps de concentration qu'il a vécu quand il était jeune. C'était un mercredi après-midi et mon grand-père est venu me chercher juste après. Et mon grand-père, il avait fait plusieurs années en camp de travail à Berlin. Et c'est cette sorte d'homme immense, c'était un ouvrier, c'était très trapu, mais vraiment il avait... sur sa main, c'était la taille de mon visage, quoi. Il me rappelle dans la voiture et il me raccompagne vers la maison, et donc je lui explique que un monsieur m'a expliqué tout ça et que ça choque quand même un minimum un enfant. Et donc moi, en sachant qu'il a vécu pas exactement la même chose mais quelque chose quand même de similaire, parce que bon, quand il est revenu il faisait 30 kilos alors qu'il avait peut-être 25 ans ou 20 ans, peu importe, mais bon, tu ne pèses pas 30 kilos à cet âge là et je me rappelle lui avoir dit, je suis content Nono que t'es encore en vie. Et il a eu des larmes aux yeux, et ça, c'est un truc, ça, je n'oublierai pas. Ça, c'est vraiment, je pense, un moment où il y a beaucoup d'émotions. Je pense même lui, il avait 80 ans à ce moment-là. Donc, quand ça, c'est quelque chose où, allez, j'ai peut-être percé sa coquille. Et on ne le voit pas toujours. Des fois, on a nos anciens, nos grands-parents. Tu sais, c'est des générations où on n'exprime pas toujours ce qu'on ressent. On a mal, on ne va pas à l'hôpital. Et des choses comme ça. Et donc, c'est des moments comme ça que je chéris dans ma mémoire parce que. Ouais, c'est une manière aussi peut-être que j'ai eu de montrer à mon grand-père que je l'aimais. Et donc, ouais, ça c'était peut-être un regard, ou en tout cas, ouais, un regard que j'ai apprécié, que j'ai. Donc voilà.
Merci pour ce témoignage. Et un peu de l'ordre de l'indicible, justement, comme on disait juste avant.
Ouais.
Bien, bah écoute Fabio, un tout grand merci pour cette interview. Chers auditeurs, j'espère
merci
que
à
ça
toi.
Vous a. Mais de rien, merci de m'avoir. Parce qu'en fait, c'est toi qui m'as invité ici.
Mais avec plaisir.
Et du coup, bah, j'espère, chers auditeurs, que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, vos avis sur ce thème bien particulier. Et à une prochaine, fil groupe.